France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Ophtalmologue de grande réputation, spécialiste des maladies de la cornée, Yves Pouliquen était aussi un fin lettré, un grand lecteur et un écrivain. Élu à l'Académie française en 2001, on lui doit de nombreux ouvrages, notamment les biographies de deux de ses célèbres confrères, Félix Vigdazir et Cabanis. En janvier 2007, alors qu'il publiait Madame de Sévigné et la médecine du grand siècle, Yves Pouliquen était l'invité de Jean-Noël Jeannet dans Concordance des temps pour rappeler ce qu'était la médecine au XVIIe siècle en se référant particulièrement à la manière dont en témoignait la correspondance de la célèbre marquise. Madame de Sévigné, qui, comme on ne le sait pas toujours, souffrait de rhumatisme et prenait les eaux à Vichy. La médecine et les médecins chez Madame de Sévigné, donc, mais bien entendu également dans l'œuvre de Molière, c'était dans Concordance des temps, le corps et l'esprit, Madame de Sévigné et ses médecins. Première diffusion, le 27 janvier 2007, sur France Culture. Les 10 dernières minutes de cette archive sont d'une qualité moyenne et comportent quelques craquements.
Travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Le dessèchement est devenu général.
Les mots, la salle de douleur, goutte gravelle.
Hydropisie de poumon.
Il faut le saigner.
Encore.
Il a déjà été trois fois dans la journée d'hier.
Plus on tire de l'eau croupie dans un puits, plus elle revient bonne.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Nous avons plusieurs fois mesuré à ce micro combien les heurts et les malheurs de notre enveloppe corporelle et la manière dont les générations successives ont pu les vivre sont révélateurs de la spécificité d'une société à un moment donné. L'histoire de la médecine est à cet égard d'une richesse presque insondable, pas seulement pour faire apprécier comment les progrès de la science ont pu prolonger les existences et alléger les souffrances, mais surtout pour restituer les équilibres d'âge en âge entre les angoisses et les allégresses, entre l'espérance de la pérennité et l'inquiétude de la fragilité. C'est sur ce fond de curiosité que le goût m'est venu d'inviter ce matin Yves Pouliquen de l'Académie française, qui après une belle carrière de médecin des hôpitaux, directeur du service d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu, a braqué sa curiosité sur la médecine du grand siècle. Par le truchement de qui ? Eh bien de Madame de Sévigné, dont la correspondance fournit une profusion d'informations passionnantes dans ce domaine. Madame de Sévigné qui écrivait « Ce n'est que de la santé » qu'il est question dans le monde. Comment vous portez-vous ? Comment vous portez-vous ? Et l'on ignore entièrement cette science qui nous est si nécessaire. Au premier regard, on découvre bien sûr aisément un gouffre entre le XVIIe siècle et nos jours, compte tenu des formidables progrès survenus depuis lors quant à la connaissance du corps humain et la manière d'en ralentir la décrépitude et d'en repousser la fin. Et pourtant, il me semble qu'entre le psychisme et la santé physique, des relations qui s'aperçoivent à l'époque sont loin d'avoir tout à fait disparu.
Vive la médecine, vive la médecine, qui fait vœu d'être sien sans trouve bien, qui fait vœu d'être sien sans trouve bien,
et ceux qu'elle assassine, enterrés comme il faut, enterrés comme il faut, enterrés comme il faut. N'en souffle mot, n'en souffle mot, n'en souffle mot. Au hasard, si des Hippocrates parlaient une fois ou de la rate, dépêchez un homme bien sain, et vous voilà grand médecin. Le tailleur qui m'habille pour manier l'aiguille a dû s'instruire en son métier. Pour moi, 20 coups de gaule en frottant mon épaule m'ont fait docteur de fagotier. De fagotier, de fagotier, docteur, docteur. Vive la médecine, vive la médecine, qui fait vœu d'être sien sans trouve bien, qui fait vœu d'être sien sans trouve bien, et ceux qu'elle assassine, enterrés comme il faut, enterrés comme il faut, enterrés comme il faut. N'en souffle mot, n'en souffle mot, n'en souffle mot. Vive la médecine, vive la médecine, ceux qu'elle assassine, enterrés comme il faut, n'en souffle mot. Vive la médecine, vive la médecine, ceux qu'elle assassine, enterrés comme il faut, n'en souffle mot. Ceux qu'elle assassine, enterrés comme il faut, n'en souffle mot.
Fouliquin, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé, pour commencer notre conversation, un extrait d'un opéra comique en 3 actes de Jules Barbier et Michel Carré avec une musique de Charles Gounod qui est directement inspirée du médecin, malgré lui, de Molière. Je trouve qu'accueillir un médecin en disant « Vive la médecine », c'était assez délicat, vous ne trouvez pas ?
Oui, c'est une très bonne idée. Et je vous citerai Louis XIV en disant que les médecins nous font assez souvent souffrir pour qu'on puisse en rire quelquefois. Et je pense que cette introduction était tout à fait dans le ton.
Alors nous allons parler d'une très grande dame, un grand écrivain français, qui est Madame de Sévigné. Comment avez-vous eu le goût d'utiliser cette œuvre magnifique, ces lettres, pour y appliquer votre curiosité de grand médecin devenu historien ?
D'abord un goût de lecteur, tout simple, de vouloir renouer avec Madame de Sévigné, dont j'avais gardé un souvenir depuis mon enfance, en connaissant les textes les plus connus. Et puis, je suis un lecteur assez très sérieux même, donc j'ai entamé la lecture. Et là, je me suis souvenu que beaucoup de médecins dans le passé et beaucoup de pharmaciens avaient déjà écrit un certain nombre de textes sur les rapports de Madame de Sévigné avec la médecine.
Des petits textes dispersés.
Des choses dispersées. Et je me suis attaché à noter au jour le jour tout ce qu'elle disait. Et je me suis aperçu que c'était plus de 400 lettres sur les 1000 et quelques qui sont publiés, colligés par Roger Duchesne.
La magnifique édition de la Pléiade.
Voilà. À ce moment-là, c'est devenu une somme très importante de notes, d'avis, aussi drôlement racontés, quelquefois même douloureusement et tragiquement racontés par Madame de Sévigné, et qui faisait un tableau magnifique pendant 50 ans. De la médecine de la deuxième partie du XVIIe siècle.
Donc vous en avez fait votre provende.
Voilà. Et pendant 4 années, je dois dire, j'ai vécu avec Madame de Sévigné en grande intimité. Et j'ai même, au-delà de ses remarques, j'ai apprécié cette lecture dans sa totalité et l'esprit de Madame de Sévigné peut-être mieux que je ne l'avais imaginé au départ de cette relecture.
Et vous avez ressenti une immense distance avec vos confrères de l'époque ou au contraire une confraternité par moments un peu attendrie?
Eh bien oui, parce que je crois que ce qu'il reste dans nos esprits, c'est que la médecine, effectivement, était peu efficace. M. Jean-Bernard disait que c'est les sulfamides qui ont donné à la médecine un vrai rôle.
Deuxième moitié du XXe siècle.
Oui, et qu'avant, elle n'en avait pas, sinon de parler, sinon d'essayer de faire les choses. Mais ça ne se résumait pas tout de même à ça. Quand on étudie la formation des médecins de l'époque, elle était tout de même très sérieuse. L'étude des signes était réelle. La sémiologie avait un sens.
Meilleur diagnosticien que
oui,
capable de guérir.
Oui, exactement. Mais par contre, le diagnostic, les signes étant rassemblés, ce qui présidait encore au raisonnement, c'était les vieilles idées de Galien avec la théorie des humeurs. L'humorisme, voilà.
Et entre Galien et Hippocrate, on remontait toujours à l'Antiquité.
Toujours
les autorités des grands...
Voilà. il y avait les quatre humeurs, le sang, la bile, la pituite et la trabile, qui était la mélancolie. Et autour de cela, eh bien, on cherchait à les évacuer lorsqu'elles étaient en trop grande quantité, c'était la saignée. Et on essayait aussi, quand elles étaient viciées, de les modifier par la purge et les lavements. Ce qui est étonnant, c'est que des gens comme Patin, que je citerai, qui était doyen de la faculté de médecine de Paris, était un homme fort intelligent qui collectionnait tous les livres de médecine qui paraissaient. Il a été l'auteur de la première bibliothèque médicale parisienne. Cet homme fort intelligent était capable de rassembler des signes, mais lorsqu'il faisait une analyse, je dirais, étiologique de la maladie, il se référait à des notions très antiques et qui étaient fausses.
Et qui égaraient par conséquent.
Égaraient complètement.
Sa prescription, le diagnostic.
Sa prescription. Et comme en plus, pour prescrire, il n'avait rien. Il faut bien dire qu'il n'y avait rien. Hein, car à part l'opium et quelques extraits de plantes, on n'avait aucune manière de soigner les maladies, quelles qu'elles soient. Ils étaient inefficaces.
Alors voilà, ça c'est le fond de tableau, effectivement.
Oui, oui.
Nous allons trouver tout ça en détail en utilisant la correspondance de la divine marquise. Et pour faire entendre tout de suite sa voix, je voudrais vous proposer cet extrait d'une lettre du 3 février 1676 à sa fille, Françoise de Grignan, élue par Jeanne Boitel. Écoutez, il s'agit d'un mal qu'elle va, après quelques suspens, définir.
Devinez ce que c'est, ma fille, que la chose du monde qui vient le plus vite et qui s'en va le plus lentement, qui vous fait approcher le plus près de la convalescence et qui vous en retire le plus loin, qui vous fait toucher l'état du monde le plus agréable et qui vous empêche le plus d'en jouir, qui vous donne les plus belles espérances du monde et qui en éloigne le plus l'effet. Ne sauriez-vous le deviner? Jetez-vous votre langue au chien. C'est un rhumatisme. Il y a 23 jours que j'en suis malade. Depuis le 14, je suis sans fièvre et sans douleur et dans cet état bien heureux, croyant être en état de marcher, qui est tout ce que je souhaite, je me trouve enflé de tous côtés, les pieds, les jambes, les mains, les bras. Et cette enflure qui s'appelle ma guérison, et qu'il est effectivement, fait tout le sujet de mon impatience et ferait celui de mon mérite si j'étais bonne. Cependant, je crois que voilà qui est fait et que dans 2 jours, je pourrai marcher. L'armechin me le fait espérer. Oh, qu'espéro! Je reçois de partout des lettres de réjouissance sur ma bonne santé, et c'est avec raison. Je me suis purgée une fois de la poudre de Monsieur Delorme, qui m'a fait des merveilles. Je m'en vais encore en reprendre. C'est le véritable remède pour toutes ces sortes de maux. Après cela, on me promet une santé éternelle. Dieu le veuille. Le premier pas que je ferai sera d'aller à Paris. Je vous prie donc, ma chère enfant, de calmer vos inquiétudes. Vous voyez que nous vous avons toujours écrit sincèrement. Avant que de fermer ce paquet, je demanderai à ma grosse main si elle veut bien que je vous écrive 2 mots. Je ne trouve pas qu'elle le veuille. Peut-être qu'elle le voudra dans 2 heures. Adieu, ma très belle et très aimable. Je vous conjure tous de respecter avec tremblement ce qui s'appelle un rhumatisme.
Jeanne Boitel, qui lisait cette lettre de Madame de Sévigné, cette lettre de 1676, et c'est la comédienne qui a interprété d'ailleurs Madame de Sévigné dans, je le signale, dans Si Versailles m'était compté, de Sacha Guitry. Mais alors, Yves Pouliquen, nous y voilà tout droit.
C'est magnifique. Madame de Sévigné parle de rhumatisme. C'est vrai que c'est la première grave atteinte qu'elle ait eue dans sa vie. Elle a 50 ans. En 76, elle a 50 ans. Avant, elle n'a eu que des petits troubles de colique néphrétique. Elle a eu une ménopause avec des vapeurs, un peu de mélancolie aussi. J'y insiste pas mal, car Madame de Sévigné n'était pas là toujours forte. Elle avait aussi ses petites détresses, ses angoisses.
Des sinusoïdes psychologiques.
Oui, qui justifient aussi l'interprétation un petit peu plus modérée qu'on fait dans ses rapports avec sa fille, parce que je crois qu'elle avait une inquiétude profonde et qui était justifiée par les distances, etc. En tout cas, là, pour une fois, elle a une vraie maladie qui est qualifiée de rhumatisme, un rhumatisme qui, à l'époque, englobait tout, aussi bien la goutte que l'arthrose, que le dégénératif, que l'inflammatoire, que l'infectieux. Elle a fait une très grosse atteinte articulaire, en tout cas.
C'est votre diagnostic, finalement.
Oui, j'ai même insinué qu'il est possible que la fameuse main, la fameuse grosse main, qui ne peut pas écrire, il est quand même étonnant qu'elle n'ait pas pu écrire pendant plus d'1 an et demi avec cette main, et qu'elle a même essayé d'écrire avec la main gauche. Alors je me suis demandé si, à 50 ans, l'assez volumineuse Madame de Sévigné n'avait pas aussi une hypertension artérielle, qu'elle n'ait pas fait un petit accident vasculaire cérébral avec une petite déficit hémiplégique droit. Je me suis posé la question. Rien ne le prouve, bien sûr, puisque je n'ai que des signes assez imprécis pour le dire.
Mais Fagon aurait été content de vous, je crois, le grand médecin de Louis XIV.
Oui, peut-être. Je ne sais pas si Fagon, Monsieur Delorme, en tout cas, aurait peut-être appuyé mon diagnostic. En tout cas, ce fut une grave atteinte. Et une grave atteinte, d'ailleurs, qu'elle dit sur une manière enjouée à sa fille, alors qu'elle était au fond beaucoup plus profondément atteinte. Et là, c'est son fils qui écrit.
Charles,
parce qu'elle ne pouvait pas écrire à ce moment-là. Et ça a duré longtemps, et ça s'est terminé par les stations dans les eaux qui la rapprochaient de sa fille. Et où elle espérait que sa fille vienne, mais la même, étant enceinte à l'époque, et avait d'autres soucis que d'aller soulager sa mère. Enfin, ça a été l'origine, d'ailleurs, d'un drame entre la mère et la fille, ce rhumatisme.
Là, on est plutôt du côté de la psychologie. Voilà. On entre dans le champ de cet amour sans limite qu'elle a porté à sa fille.
Et il apparaît aussi dans cette lettre un ton qui était très différent de celui qui caractérisait sa situation à l'époque, parce qu'il ne fallait pas inquiéter. Il faut revenir à cette époque où les gens était distant de 500 lieues. Quand sa fille était à Grignan et elle à Paris ou au Rocher, il y avait une semaine au maximum, ou quelques jours au minimum, qui séparait la question de la réponse. C'est-à-dire, il y avait le double distance.
Beaucoup de temps pour l'angoisse.
Beaucoup de temps pour l'angoisse. Et Madame de Sévigné était une femme angoissée. Il suffit de relire les très magnifiques lettres quand elle se sépare de sa fille. Moi, qui m'ont absolument convaincu de sa sensibilité, ce qui est loin du tableau habituel que l'on fait de Madame de Sévigné, qui est une dame, certes impérative, mais qui avait aussi des raisons, quelquefois, d'être inquiète.
Ce que cette correspondance restitue, quand on vous suit, c'est cette angoisse, oui, devant la brièveté de la vie, devant la fatalité des maladies. On trouve la même chose chez Saint-Simon. On est entouré de gens qui meurent à une époque où il semble que l'espérance de vie, comme disent les démographes, est autour de 25 ans.
Exact.
C'est-à-dire
pour
une classe d'âge, la moitié aura disparu avant 25 ans.
C'est vrai. Alors il faut peut-être moduler un peu cette interprétation, parce que si c'était 25 ans, c'est que 50% des morts étaient des enfants de moins de 15 ans.
Et la première année aussi,
la
moisson de...
Alors l'accouchement aussi, qui était une... qui moissonnait les femmes.
La Camarde, comme on disait à l'époque, moissonnait beaucoup de petits bébés.
On dit que... oui, c'est vrai. Non, c'était, il y avait d'abord les mères qui mouraient, puis ensuite les nouveaux-nés qui mouraient des maladies infectieuses. Enfin, c'était une période terrible. Ce que j'ai saisi aussi, c'est que l'enfant avait une valeur relativement, dans ses familles en tout cas, moindre que celle d'un adulte.
On rappelle toujours que Montaigne ne savait plus exactement combien il avait eu d'enfants.
Oui, c'est ça. Oui, l'enfant, bon, on le donnait à élever à des nourrices, et puis bon, il revenait ou il ne revenait pas.
Du Morvan.
Oui, voilà, du Morvan. et d'ailleurs, Madame de Sévigné elle-même n'a reconnu ses enfants que quand ils sont venus chez elle. Avant, elle était assez indifférente.
C'est peut-être un des domaines où on mesure le plus la formidable différence qui nous sépare de ce siècle, c'est précisément la parturition, c'est l'accouchement.
Ah, l'accouchement, oui. Alors, l'accouchement qui était aux mains des sages-femmes, qui ignorait tout des règles d'hygiène. Et l'homme, médecin, n'avait pas le droit d'accoucher.
On réservait
aux sages-femmes.
Pour des raisons de pudeur.
Oui, les sages-femmes qui n'est pas non plus des femmes tout à fait ignorantes. Il y avait à Paris une école de sages-femmes à l'Hôtel-Dieu qui était relativement, je dirais, pour l'époque, plus évoluée qu'ailleurs.
On voit pourtant Louis XIV s'inquiéter beaucoup de la médiocrité du comportement des sages-femmes.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que le roi Louis XIII, puis Louis XIV, est toujours intervenu dans la médecine. C'est dire ce que la santé, la place de la santé avait à l'époque, elle l'a toujours de nos jours, combien elle nous coûte cher même. Mais sous Louis XIII et Louis XIV, Louis XIII a créé au Jardin des Plantes l'école de Dionis, le chirurgien, pour qu'il y fasse des dissections que l'Église interdisait.
Et pourtant Louis XIV lui-même a été disséqué par Fagon, son médecin.
Ah oui, après, bien sûr, oui, autopsié, c'était différent. Et Dionis a donc créé l'école du Jardin des Plantes, qui a été la première, si vous voulez, d'école d'anatomie véritable, enfin autorisée. Et ensuite, Louis XIV, on le voit intervenir chez les sages-femmes, puisqu'il y a trop de morts à l'accouchement. C'est incroyable, il faut que les médecins interviennent. Et les médecins intervenaient, mais n'avaient pas le droit d'accéder au regard de l'accouchement. C'est-à-dire qu'ils procédaient sous drap, etc. Ça, on n'imagine pas que ça devait être toujours facile. Et il y avait beaucoup de morts. Et on dit qu'une femme qui avait en été à sa 8e grossesse avait une grande chance de mourir.
Même si les accouchements sont, nous dit-on, plus faciles.
Plus faciles, mais parce qu'il y avait les infections. Et on explique aussi les mariages successifs des hommes qui épousaient à chaque fois une jeune femme pour remplacer celle qui était morte.
Mais ça a duré jusqu'au 19e siècle,
exactement.
En fait. Les chroniques sont pleines de jeunes femmes mortes
bien
en couche.
Bien sûr, en couche. Et Madame de Sévigné, ben vous savez, jusqu'à Semmelweis... et Louis-Ferdinand Céline, dans sa célèbre thèse, d'avoir trouvé ce qu'était la fièvre puérale, c'était enfantin, c'était de se laver les mains pour pas qu'il y ait de contamination d'une femme à l'autre. Eh bien, et Madame de Sévigné était d'autant plus inquiète que Françoise épouse le comte de Grignan, c'est que le comte de Grignan avait tué entre guillemets, deux épouses précédentes qui étaient mortes en couche.
Alors l'image que nous avons, et nous allons la nuancer bien sûr, l'image que nous avons est tout de même celle d'un monde où les médecins sont largement des faiseurs, ou en tout cas sont d'une telle incertitude sur ce qu'il faut faire que leurs conversations, leurs débats prennent quelque chose de dérisoire et parfois de sinistre. Pour en avoir la perception, je vous propose un extrait du film célèbre de Roberto Rossellini, La prise de pouvoir par Louis XIV. Le texte est de Jean-Dominique de La Rochefoucauld. C'est le moment où les médecins essayent, sans vraiment y croire, de sauver Mazarin.
Éminence, voici les deux confrères dont je vous ai parlé. Ils vont vous examiner.
Messieurs.
Que ressentez-vous?
Notre difficulté à respirer. Je ressens de l'ancienante douleur.
Eh bien, messieurs, à moins d'un miracle.
Le dessèchement est devenu général.
Les maux l'assaillent de toutes parts, goutte gravel.
Hydropisie du poumon.
Il faut le saigner.
Encore. Il a déjà été trois fois dans la journée d'hier.
Plus on tire de l'eau croupie à un puits, plus elle revient bonne. Plus la nourrice est têtée par son enfant, plus elle a de lait. Il en est de même pour le sang et la saignée.
Le corps humain contient 24 litres de sang et l'on peut en perdre 20 sans mourir. On reste donc dans une limite raisonnable dès qu'on en laisse un peu au patient. Alors, nous saignons. Nous saignons.
Nous saignons les enfants de 3 ans et avant 3 ans, et les hommes de 80 ans le supportent fort bien. Or, son éminence n'a même pas 60 ans. Nous pouvons essayer. Soyez assuré, éminence, qu'avec l'aide de Dieu, nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir pour vous redonner la santé.
Merci. Merci.
Il n'y a rien à faire. Peut-être n'a-t-il pas été assez purgé de ses humeurs mauvaises.
Cette nuit, je lui ai administré de la rhubarbe.
Nous pourrions peut-être faire téter à son éminence le lait d'une nourrice, comme l'on fait à sa majesté catholique.
Nous pourrions peut-être aussi essayer les pierres précieuses.
Nous pourrions...
Croyez-vous que cela en vaille la peine?
Et je ne l'ai jamais expérimenté moi-même sur un malade.
Vous retrouvez vos confrères, vous vous sentez fraternel?
Oui, je les retrouve tout à fait, d'autant plus qu'il y a un texte de Guy Patin, le 7 mars 1661, qui est relatif exactement à l'agonie de Mazarin.
Et c'est le même tableau?
Oui. « Hier, à 2 heures, dans le bois de Vincennes, quatre de ses médecins, savoir Guénaud, Vallot, Braillère et Bréda de Fougeret, alterquaient ensemble et ne s'accordaient pas de l'espèce de maladie dont le malade, c'est-à-dire Mazarin, mourait. Braillère disait que la rate est gâtée, Guéraud que c'est le foie, Vallot dit que c'est le poumon et qu'il y a de l'eau dans la poitrine. De Fougeret, un abcès du mésentère. Ne voilà-t-il pas d'habiles gens ? Disait Patin qui s'en moquait. Dans l'amour médecin, c'est exactement les quatre médecins que Molière met en scène. Et c'est Boileau qui leur a donné un autre nom. on les reconnaît parce que Molière a poussé, je dirais, l'audace jusqu'à mimer le bégaiement de l'un, la boiterie de l'autre, etc. Si bien que les gens qui assistaient à L'amour médecin savaient de qui on se moquait.
Ça, c'est Aristophane qui des gens réels.
C'est absolument...
Et c'est presque les guignols de l'info.
Exactement, c'est guignols de l'info. Oui, ça avait cette qualité-là. Enfin, c'était drôle. Et Patin s'en moquait, pourquoi ? Parce que Patin, lui, il était parisien. Et que les médecins qui entouraient la cour étaient de Montpellier. Et que pour les Parisiens, il était tout à fait inadmissible que le roi choisisse toujours des Montpelliérains. Et il y avait donc une rivalité absolue. Et on contestait à ces médecins des qualités qui n'avaient pas été acquises, là où Patin, doyen tout-puissant de Paris, était capable de déterminer qui était capable de soigner le roi. Et Patin n'allait pas à la cour, lui.
Il y avait une géographie, en quelque sorte, de la médecine.
Il y avait une géographie. Et Patin était entre les médecins montpelliérains qui étaient chez le roi, et puis les charlatans et les empiriques qui, de l'autre côté, voulaient aussi être sur son territoire. Signalons qu'alors, il n'y avait que 200 médecins pour tous les Parisiens.
Donc, on a progressé non seulement en efficacité, mais en nombre.
Si oui, en nombre.
C'est
nombre,
peut-être lié, d'ailleurs.
Nombre, oui, enfin, il faut l'espérer, en tout cas.
Vous citiez le bon sens de Louis XIV tout à l'heure.
Oui.
Il paraît aussi avoir du bon sens quand il réfléchit au rapport entre l'esprit et le corps, entre l'âme et le corps. Ce que nous appellerions aujourd'hui une réflexion sur les maladies psychosomatiques.
Oh oui,
il y a un cas en particulier qui est le moment où Boileau, à la grande inquiétude de son ami Racine, devient un faune.
On retrouve dans la littérature et dans les lettres, dans la correspondance, ces mêmes préoccupations, toujours comment vous portez-vous. Et alors là, lorsque Racine se lamente que Boileau finalement est toujours un faune et n'arrive pas à retrouver, alors qu'on lui a conseillé je ne sais combien de médecins ou de charlatans, Louis XIV lui dit raisonnablement, écoutez, supprimez tout ça et je pense que ça va s'arranger tout seul. Et
il fera mieux de se remettre à son train de vie ordinaire, la voix lui reviendra lorsqu'il y pensera moins.
Exactement.
Ça, c'est très actuel.
Et ça, c'est merveilleux.
C'est
très actuel. Et c'est du grand bon sens. C'est du grand, grand bon sens. Et Louis XIV en avait. De même que quand il a choisi le quinquina.
Ah, le quinquina, c'est un des vrais remèdes efficaces.
C'est le premier remède qui ait permis d'atténuer la fièvre.
Il surgit quand, le quinquina ? La quinine ?
Oui, c'est la quinine, oui. Ben, c'est un médecin anglais qui a ramené la poudre des jésuites, enfin une longue histoire, qui serait trop longue à raconter ici, et qui l'a introduit.
Il l'a rapporté d'où ?
C'est un apothicaire, il l'a rapporté de Londres, et il l'a introduit à la cour de France. Et Louis XIV s'est aperçu que ça faisait un bien inouï quand on avait la grippe, quoi. Mais on avait la grippe très souvent. Ou quand on avait du paludisme, car le paludisme était à la cour de Versailles.
Un autre fléau.
Et lorsqu'on prenait quelques grammes de poudre de quinquina, eh bien on était guéri. Et à ce moment-là, Patin, il y a eu la guerre contre le quinquina. Tout le monde s'est élevé contre cette drogue dont on ne savait pas d'où elle venait, etc., etc. Il y avait encore une fois une guerre qui alimentait les guignols de l'info de l'époque, qui étaient des gens fort célèbres, que ce soit La Fontaine, que ce soit Boileau, que ce soit Molière.
Vous faites beaucoup d'honneur à Canal+.
Ça a eu un succès formidable, que ce quinquina, c'était la naissance, en quelque sorte, d'une thérapeutique enfin, alors que la médecine elle-même, ce que nous n'avons pas dit tout à l'heure, la médecine elle-même se transformait avec les grandes découvertes de la circulation, etc.
Nous allons y venir, mais restons un instant dans le psychosomatique.
Oui.
C'est là qu'on retrouve... Et forcément, Molière est présent constamment dans cette émission, que nous retrouvons ce grand homme avec le malade imaginaire. Je ne pouvais pas, évidemment, vous priver du plaisir d'entendre la scène 10 de l'acte 3, la scène du poumon. Je rappelle que Toinette, la servante, s'est déguisée en médecin pour tromper le malade imaginaire, Argan. Et cet extrait provient de la dernière... Représentation d'adieu à Madame Dussane, Béatrix Dussane, qui était à la fois une merveilleuse comédienne et une magnifique conférencière. On va la trouver interprétant Toinette, Argan et Bernard Blier.
Cet homme-là n'est pas écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade ?
Il dit que c'est du foie. D'autres disent que c'est de la rate.
Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade.
Du poumon ?
Ouais. Que sentez-vous ?
Mais je sens de temps en temps des douleurs de tête.
Justement, le poumon.
Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux.
Le poumon.
J'ai quelquefois des maux de cœur.
Le poumon.
Je sens de temps en temps des lassitudes par tous les membres.
Le poumon.
Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques.
Ah, le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez, hein ?
Oui, monsieur.
Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin, hein?
Oui, monsieur.
La poumon. Vous prendre un petit sommeil après le repas.
Hein? Oui,
vous êtes bien aise de dormir.
Oui, monsieur.
La poumon. Poumon, vous dites. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture?
Il m'ordonne du potage.
Ignorant.
De la volaille.
Ignorant.
Du veau.
Ignorant.
Des bouillons.
Ignorant.
Des œufs frais.
Ignorant.
Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre.
Ignorant.
Et surtout de boire bon vin fort trempé.
Ignorantus, ignoranta, ignorant homme. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de volante, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville.
Vous m'obligez beaucoup.
Que diantre faites-vous de ce bras-là?
Comment?
Mais voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure, si j'étais que de vous.
Et pourquoi?
Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter?
Mais j'ai besoin de mon bras.
Oh, vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais en votre place.
Crever un œil?
Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Mais croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt. Vous en verrez beaucoup plus clair de l'œil gauche.
Cela n'est pas pressé.
Adieu, je suis fâché de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier.
Pour un homme qui mourut hier?
Eh oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir.
Quelle force, n'est-ce pas, Yves Poulidien? Quelle jeunesse à tant de siècles de distance, inentamée.
Inentamée, oui, c'est toujours aussi drôle, aussi vrai, et je dirais probablement aussi exact pour une part de l'action encore imprécise de la médecine. Ce qui aussi situe les rapports de Molière avec la médecine, qui est un rapport, je dirais, constant. Pratiquement toutes ses œuvres ont un médecin. Alors, au premier degré, c'est la comédie italienne. On utilise le médecin comme thème de comédie. Il y a aussi, en fait, un rapport avec d'Aquin. Il était le locataire de d'Aquin.
Rappelez qu'il était d'Aquin.
D'Aquin, c'était le médecin du roi. Et d'Aquin était très avare. Il devait faire payer cher son loyer à Molière et de Molière devait lui en vouloir un peu. Et puis, il y a aussi les rapports avec la santé de Molière. Molière est mort en scène avec une hémoptysie, image que le sort lui réservait. C'est tout de même étonnant. Mais on a aussi beaucoup parlé des variations de sa force, de son esprit, de son dynamisme. Il a eu quand même quelques à-coups. Il a eu aussi des drames sentimentaux. Et on s'est vengé de lui en créant... Elomir Hypocondre, ou les médecins vengés, qui traitaient précisément de cet état instable, on dirait bipolaire, cyclotimique peut-être de Molière. Il y avait donc un rapport aussi avec la médecine, et peut-être aussi, ce regret de ne jamais être soigné, et d'avoir toujours sollicité les médecins sans réponse. Et là, je crois qu'aussi, il y a une somme de choses qui interviennent dans la passion, finalement, qu'a eu Molière pour la relation avec la médecine.
Peut-être qu'on retrouve le même sentiment que chez Madame de Sévigné, c'est-à-dire un mélange constant entre la méfiance à l'égard de la médecine, le sentiment qu'elle est incapable d'arriver à ses fins, et en même temps le désir fondamental d'y croire.
Et voilà. Et Madame de Sévigné dit des mots atroces sur la médecine.
Tout en entourée de médecins.
En ayant recours aux médecins ou à ceux qu'elle croit capable de la soigner.
On va venir aux guérisseurs. On va venir aux guérisseurs tout à l'heure. Il faut dire que quelqu'un comme Madame de Sévigné, qui est votre truchement pour accéder à la médecine du XVIIe siècle, était elle-même, je dirais, payée pour savoir à quel point la vie était brève et difficile, puisque c'était une orpheline, quasiment.
Oui, elle a vécu dans une ambiance de mort. Et il est sans doute possible d'imaginer que beaucoup de nos ancêtres au XVIIe siècle vivaient dans cette ambiance de mort. Elle est orpheline de père très rapidement, de mère très rapidement, de sa mère adoptive, de sa tante.
Son père a été estourbé à la guerre.
Oui, son père a été estourbé à la guerre. Oui, à La Rochelle, oui. Son mari, lorsqu'elle aborde sa propre vie, son mari se fait tuer en duel. C'est le deuil dont peut-être Madame de Sévigné n'a pas été le plus marqué. Enfin, je n'ose pas le dire, mais dans
laissez-vous
l'écriture...
Laissez-vous aller.
Oui, dans l'écriture, il n'en est pas beaucoup question. De son mari. Et en plus, elle chante tout le temps la joie d'être veuve. que les veuves sont heureuses parce qu'elles sont enfin libres. Elles ne sont pas enceintes. Alors Dieu, elle a eu que 2 enfants en 7 ans, ce qui est extraordinaire à l'époque.
C'est pour ça que nous avons ces lettres, probablement.
Oui, et c'est oui, exactement. Et puis, oui, sinon elle serait peut-être morte. Hein. Quand son mari disparaît, elle se dit, ouf, plus de grossesse.
Son grand mérite, c'est d'avoir donné le jour, permis qu'elle donne le jour à Françoise de Grignan, sa fille, le grand amour de sa vie.
Exactement, et d'avoir trouvé quelqu'un à qui écrire. Et quelqu'un qui la contrarie. Parce que, en plus, ça l'a fait sortir de ses gonds, ça nous l'a fait s'exprimer dans la totalité de ses sentiments.
Merci à l'une et à l'autre.
Oui, exactement, mais c'est un rapport formidable. Mais, en réalité, quand elle fut veuve, elle fut heureuse d'être veuve. Et Bussy-Rabutin, son cher cousin amoureux, lui dit de temps en temps, quand vous avez des vapeurs, ma chère, c'est facile de les guérir.
C'est un autre destinataire de sa correspondance.
Oui, un autre destinataire. Ça serait facile de les guérir, il suffirait que je me rapproche de vous. Et en réalité, elle ricane, elle garde, je crois, avec un certain bonheur, une chasteté, je le crois franchement. Ce qui n'exclut pas...
Vous êtes sûr, docteur?
J'ai passé 4 ans avec elle, donc je l'ai surveillée. Elle n'est pas indifférente aux jeunes gens. Il y a le frère de son gendre qui vit chez elle, qui a un rhumatisme comme elle. Qui
le devient... rhumatisme rapproche.
Oui, oh là là. Et puis, on sent qu'elle a une amitié quand il s'en va. Elle est inquiète. Elle lui écrit. Elle lui dit, mais comment allez-vous, etc. Elle est très, très attachée. Il y a aussi son petit médecin qui, lui, fait la lecture quand elle est au zoo. Et là, on sent chez elle une délectation particulière à ce qu'un jeune homme assez beau qui lui plaît. Qui lui est sympathique, parce que si tu n'es pas sympathique, il serait pas là, et qui lui plaît, et qui lui fait la lecture, elle est derrière son rideau, elle est nue sous les draps, en train de se réchauffer ou de se refroidir, je sais pas, après son bain. Et là, on sent vraiment la libertine, car elle est libertine.
Oui, c'est une chasteté tempérée par le libertinage.
Par le libertinage, et je pense qu'elle se défoule avec son fils.
À savoir?
Ben, quand son fils a toutes ses frasques avec Ninon de l'Enclos, qui était déjà la maîtresse de son père. C'est-à-dire qui était la maîtresse du mari de la marquise. Ils ont eu la même maîtresse à 20 ans d'intervalle. Quand il a ses blénorragies, quand il lui raconte toutes ses aventures et ses fiascos, elle est absolument délirante. Elle écrit ça immédiatement à Françoise. Et c'est aussi l'un des grands domaines où on parle de la médecine et des conséquences de la blénorragie, etc., etc., et de la conduite de certaines duchesses qui ne sont pas tout de même honorables puisqu'elles transmettent les maladies sans vergogne.
Surtout ses comportements... amoureux, oui. On est assez tenté de développer la concordance des temps sur l'ère de la similitude plus que de la différence que nous voyons avec la médecine. Mais revenons, si vous permettez, à la médecine. Il y a ce sentiment devant la fatalité de la mort, dureté de la mort, une certaine manière de s'en remettre à la divine providence, en ayant en même temps le goût de ne pas s'y abandonner tout à fait. Alors on retrouve les sermons de Bossuet, par exemple.
Absolument.
Sermons de Bossuet,
magnifique.
Il y a un magnifique sermon sur la brièveté
sur
de la vie.
C'est magnifique.
Oui, où il prêche ceci. Ma carrière est de 80 ans tout au plus, et pour aller par là, combien de périls faut-il passer? Par combien de maladies? À quoi tient-il que le cours ne s'en arrête à chaque moment? Ne l'ai-je pas reconnu quantité de fois? J'ai échappé à la mort, à telle ou telle rencontre, c'est mal parlé. J'ai échappé à la mort, j'ai évité ce péril, mais non pas la mort. La mort nous dresse diverses embûches, et si nous échappons à l'une, nous tombons en une autre. À la fin, il faut venir... entre ses mains.
Oui,
cite un peu longuement parce que c'est un paysage psychologique.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on l'imaginait nécessaire. Écoutez, n'ayant aucun recours médical et chirurgical, sinon pour les fractures, lorsqu'Henriette d'Angleterre meurt soi-disant empoisonnée, en fait, elle a eu un syndrome chirurgical aigu, elle a eu ou une rupture de grossesse extra-utérine ou une péritonite, que sais-je, mais l'autopsie n'a rien révélé. Et on a dit qu'elle était morte d'un choléra morbus, mais en réalité, si elle était morte, d'autres seraient morts. Donc,
je ne prétendrai pas discuter ce diagnostic.
Non, voilà. Bon, en réalité, il n'y avait rien pour soulager les gens. Sinon, la Providence, et on sent qu'à partir de 55 ans, 60 ans, la marquise... s'attache à la Providence et finalement se dit que c'est peut-être la meilleure des choses que de rester proche de ce destin. Car elle n'a pas non plus une position religieuse parfaitement affirmée. Elle est souvent un petit peu lâche vis-à-vis de la religion, mais quand même à la fin de sa vie, alors qu'elle est redevenue sereine. Parce que je crois qu'elle a largué les inquiétudes vis-à-vis de sa fille. Elle les a larguées vis-à-vis de son fils qui est devenu religieux. Et à ce moment-là, elle est sereine. Alors, et ses lettres sont magnifiques.
Elle peut confier à son fils le soin de faire son propre salut.
Voilà, exactement. Oui, sans doute, oui. Et elle vit assez sereinement. Ce qu'elle craint absolument, c'est la déchéance de la mort, c'est-à-dire le vieillissement de sa tante, qui était un peu Alzheimer, sans doute, de bon abbé, qui aussi perd ses moyens, et de tous ses amis qui deviennent gâteux. Et ça, elle ne supporte pas. Elle se dit, j'espère que la Providence a pensé cela et qu'elle me fera mourir très vite.
Il y avait beaucoup moins de gâteux à l'époque, puisque par définition, on mourait beaucoup plus avant.
Oui, il y avait quand même des gens âgés. Hein. Saint-Simon en est plein de gens âgés. Enfin, il y a sûrement que ceux qui avaient passé le moment de la petite vérole et des maladies de l'enfance, ils s'en sortaient pas mal, ou de l'accouchement.
Le fameux centenaire Fontenelle,
ah bah voilà,
qui était d'ailleurs très, très reconnaissant à son médecin, qui disait qu'il pouvait donner pour preuve de son habileté qu'il vivait.
Oui, oui.
Vous parlez des chirurgiens. Oui. Les chirurgiens, c'est un domaine où on sent plus d'habileté, comme toujours la guerre accompagne ou provoque des progrès de la chirurgie.
Oui.
Et il y en a beaucoup dans cette époque du XVIIe siècle, deuxième moitié du XVIIe siècle.
Et le chirurgien commençait aux non-chirurgiens, ce qu'on appelait les bailleuls. Dans les petits villages, c'était des gens, des rebouteurs, en quelque sorte, qui savaient réparer les fractures. Et puis les chirurgiens qui se sont imposés avec l'école de Saint-Côme, mais qui étaient absolument négligés par les médecins. Alors, ils n'étaient considérés par les médecins comme ceux qui touchaient le sang, qui touchaient le corps, qui faisaient les ponctions. Hein, les barbiers perruquiers qui sont devenus, finalement, les seigneurs. Enfin, les seigneurs, ceux qui mettaient les mains à la pâte. Mais les guerres ont forgé des gens qui avaient une aptitude à guérir et à sauver un certain nombre de choses. Et c'est vrai que les médecins se sont imposés presque dans l'esprit de la cour, et surtout grâce à Félix et à la fistule du roi.
Félix ?
Félix, le chirurgien Félix, parce que le roi avait une fistule anale qui, pendant un an et demi, a été soignée par les médecins avec des onguents, et le pauvre, il était malheureux.
Souffrance affreuse,
il maigrissait, il était... Et puis un jour, Félix, qui s'était entraîné en créant des appareils spéciaux, il y en a un, son appareil de la fistule est au musée de l'école de médecine.
Ceux qui ont le goût d'y aller voir, ils diront, pas moi.
C'est de la ferraille, hein, c'est impressionnant. Et quand il a proposé au roi de l'opérer, le roi a hésité longtemps, puis Madame Maintenon l'a poussé, enfin finalement, il l'a opéré et il a guéri.
On est moins loin finalement, me semble-t-il, de la chirurgie de cette époque que de la médecine de ce temps-là.
Ah oui, sûrement. Sûrement, la chirurgie a une continuité et qui s'est révélée efficace constamment jusqu'à notre temps où elle est devenue vraiment triomphante, on peut dire. Maintenant, la médecine, je suis là avec une médecine grâce à une chirurgie extraordinaire.
Je vous félicite.
Voilà, oui, c'est vrai, j'en remercie mon chirurgien. Bon, mais c'est vrai, une chirurgie qui n'aurait pas été possible il y a seulement 30 ans ou 40 ans. Je pense que la chirurgie s'est inscrite dans une continuité. La médecine, non. Elle est restée du bavardage, et même quand elle était progressante, au cours du 19e siècle, avec l'anatomie, etc., elle est restée tout de même peu efficace.
Sur son bavardage, alors un dernier témoignage, toujours Molière, on ne s'en lasse pas. Cette fois-ci, c'est Le médecin malgré lui. On revient à la pièce qui a inspiré l'opéra comique que je vous faisais écouter en commençant. Nous sommes à l'acte 3, scène 1, et c'est Scannarelle qu'on a contraint de devenir médecin malgré lui, qui s'exprime dans les termes suivants.
Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux.
Sans doute.
Tout ce que je souhaiterais serait de savoir 5 ou 6 grands mots de médecine pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme.
Allez, tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habit. Et je n'en sais pas plus que vous.
Comment ?
Diable emporte si j'entends rien en médecine. Vous êtes honnête homme et je veux bien me confier à vous comme vous vous confiez à moi.
Quoi ? Vous n'êtes pas effectivement ?
Non, vous dis-je, ils m'ont fait médecin malgré mes dents.
Je ne m'étais jamais mêlé d'être si savant que cela, et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue, mais quand j'ai vu qu'à toute force ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être aux dépens de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue et de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vient chercher de tous les côtés, et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car, soit qu'on fasse bien ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gratter un morceau de cuir qu'il en paye les pots cassés. Mais ici, l'on peut gâter un homme sans qu'il en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession, et qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde. Et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué.
Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière.
Voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse.
J'aurais pu naturellement vous faire entendre aussi l'amour médecin, qui est une vraie farce, mais le médecin malgré lui, ça reste le chef-d'œuvre absolu, non ?
Le chef-d'œuvre absolu, c'est vrai.
Et pour votre désir de comprendre la médecine du XVIIe siècle à travers la marquise de Sévigné, on a aussi besoin de Molière.
Absolument, absolument. C'est lui qui je trouve, a créé les traits les plus permanents. Et d'ailleurs, une permanence, la fin. Sur la responsabilité du médecin est toujours de notre temps. Hein, bien sûr, heureusement, on en voit rarement les malades au-delà. On est beaucoup plus efficace. Mais c'est vrai que toutes les réflexions qui sont faites, que c'est le malade qui meurt et c'est le médecin qui reste indépendant.
Mais une différence, c'est que toujours on explique que le malade, une fois mort, il ne pourra pas se plaindre. Oui. Aujourd'hui, la famille se plaint parfois.
Oui. Je dirais que
la judiciarisation de la médecine aurait été mal comprise à l'époque.
Et je pense que celle-ci de notre temps est excessive. Est excessive parce que...
Vous préférez que le mort se taise ?
Non, je pense que le médecin est très conscient des responsabilités de plus en plus, et que maintenant, nous évoluons tous dans le cadre des bonnes manières d'agir. Il y a une ambiance, si vous voulez, de l'acte médical, probablement beaucoup plus responsable qu'autrefois, dans la mesure où, effectivement, on pouvait dire, bon, le malade meurt, et puis après, ben, le médecin, il est toujours là, et puis il ne passe rien. Maintenant, c'est plus la même chose, et nous avons le devoir, tout de même, de faire toujours ce qui doit être fait. Ce qui est difficile peut-être à tolérer, c'est qu'on voudrait penser que tout est possible sur cette terre. Et avec ce principe de précaution dont on voudrait que, finalement, il nous protège de tout, il s'étend aussi à la médecine, et la médecine ne peut pas tout. Or, je ne suis pas sûr que les patients aient accepté cela.
Donc vous nous poussez plutôt à revenir, pour une part, à l'attitude des contemporains Madame de Sévigné, qui acceptaient une certaine fatalité.
Voilà, je voudrais tout de même que l'homme, tout homme qui est impatient en puissance, surtout qu'il vit vieux et qu'il sera forcément impatient à la fin de sa vie, considère qu'il a pris les risques en naissant.
Oui, docteur Knock, là, c'est le docteur Knock.
Exactement, oui, mais que c'est, oui, c'est le docteur Knock, mais qu'il a pris les risques en naissant, que ses parents l'ont chargé de risques en naissant, et que ces risques n'ont pas tous des solutions. Or, on voudrait penser maintenant que la médecine est capable de régler tous les problèmes. Elle a fait des progrès considérables, qui ont commencé d'ailleurs à cette époque-là.
Alors justement, je voudrais qu'avant que nous quittions le XVIIe siècle...
Oui, ils ont commencé, et il ne faut pas non plus nier cela.
Et que vous nous expliquiez pourquoi le tableau que donne Molière, avec toute la vérité qu'il contient, est aussi d'une certaine façon une caricature, parce qu'il y a eu des progrès à l'époque de Madame de Sévigné.
Oui, mais les progrès, peut-être qu'ils ont servi Molière. Dans la mesure où la découverte de la circulation par Harvey, de la circulation lymphatique par Pecquet, du premier microscope en Hollande, a trouvé dans le corps médical contemporain de Molière, et parisien donc, une opposition systématique.
Y compris de grands médecins qui se sont butés dans le refus.
Bien sûr, mais ça a été...
C'est violent, passé sur
la scène publique. Ce qui est assez drôle, c'est d'imaginer qu'aujourd'hui, on pourrait discuter sur les antibiotiques au travers des grands écrivains, des grands comédiens, etc. Finalement, là, dans ce sens, il semble que cette manie se soit apaisée. Mais Molière a des arguments, puisque Diafoirus est un anti-circulateur. Et pour Molière, c'est un homme génial, puisqu'il est anti-circulateur.
Il parle de son fils Thomas en disant qu'il est excellemment
anti-circulateur.
Vous pouvez donc lui faire confiance.
Oui, donc ça a alimenté, je dirais, la comédie de Molière par réaction, je dirais, stupide d'un corps médical qui ne l'était pourtant pas, à des inventions qui devaient déterminer la médecine des Lumières, finalement, c'est-à-dire l'anatomie, l'anatomopathologie, et puis la science des signes, des symptômes, le rapport à l'organe des maladies, etc. C'est-à-dire tout ce qu'au 19e siècle, nous pourrons commencer à exploiter essentiellement en chirurgie avec une efficacité chirurgicale, mais aussi un début d'efficacité médicale. Et puis, on donne des noms aux maladies. Finalement, dans cette jungle des symptômes du XVIIe siècle, eh bien, on commence à individualiser des maladies. La tuberculose, on la décrivait vaguement, mais elle ne sera connue qu'au XVIIIe siècle. Et toutes les maladies, comme ça, s'inscriront avec des origines. On vaccinera contre la variole.
L'affaire du vaccin, c'est très intéressant.
C'est très intéressant.
Parce que vous montrez qu'un certain nombre de gens qui appartenaient aux classes privilégiées étaient plus sensibles à la maladie, à cette terrible variole qui frappait tant de gens parce que ils étaient protégés.
Oui, alors que
ils n'étaient pas immunisés par une sorte de vaccin naturel.
Oui, il y avait une tendance dans le peuple, le petit peuple pauvre, lorsqu'est arrivée la petite vérole, la variole en quelque sorte, bien les enfants en étaient atteints, forme grave, ils mouraient. Forme bénigne, ils étaient vaccinés pour leur vie entière. C'est-à-dire qu'ils n'auraient plus jamais la variole qui revenait périodiquement, qui était endémique et qui, de temps en temps, se manifestait sous forme d'épidémie.
On voit très souvent dans Madame de Sévigné qu'elle dit « une très jolie femme a été frappée par la petite variole ».
Oui, et en trois jours, c'était fini. La dynastie a failli périr par la variole. Alors que dans les familles protégées, lorsqu'il y avait la variole dans l'entourage, eh bien, on s'écartait un peu et on évitait à l'enfant d'avoir la variole, ce qui la laissait totalement capable d'en mourir plus tard. La fille de Madame de Sévigné est morte de la variole, son petit-fils est mort de la variole.
Alors, j'observe que ces grands inventeurs, ces grands découvreurs tels que Harvey, ont trouvé, comme vous le disiez, chez des gens très bien, un refus. Et par exemple, Jean Riolan, dont vous dites que c'est un grand savant, un anatomiste de grand renom, a refusé, c'est un savant fourvoyé, a refusé l'idée de la circulation du sang au profit de la vieille idée des humeurs,
c'est un misanthrope,
comme dit Philinte, mon flegme et philosophe autant que votre bile. Donc, il refuse la circulation du sang, et du coup, s'exprimant en latin, il parle de circulator, ce qui veut dire charlatan. Alors, je voudrais que nous terminions sur ce qu'est la médecine que nous appellerions parallèle, pour savoir si nous allons trouver là, Yves Pouliquen, des échos avec aujourd'hui. Écoutez cette archive radiophonique qui remonte au début des années 50. C'est tiré de Paris vous parle, l'émission de Clara Candiani, qui interviewe un poète qui a eu quelques réputations et qui est Jean Mello, sur les croyances du Berry.
Je me suis dit, spécialisé dans l'étude de ces guérisseurs que nous appelons en Berry, d'un nom assez amusant, les persigneux. Ce mot de persigneux comportant justement l'évocation de ces signes de croix, car ces païens et ces amis du diable ont en même temps des attitudes parfois très chrétiennes d'allure, évoquant donc ces signes de croix qu'ils font au cours de leurs incantations, au cours des gestes qui, chose curieuse, soignent et même guérissent.
Excusez-moi de vous interrompre, parce que ils le font au nom du diable ou au nom de Dieu, ce signe de croix, pour arrêter la brûlure?
Ils le font au nom de Dieu, ou plus exactement, au nom de saints, n'est-ce pas? Ils ont une gamme de saints dont chacun est spécialisé dans la guérison de tel ou tel mal. S'il s'agit des chevaux, par exemple, car leur médecine est également vétérinaire, ils invoqueront, ou plutôt ils évoqueront, et cette nuance est curieuse, saint Éloi ou saint Georges, les patrons des saints cavaliers, comme on les appelle. S'il s'agit des gens, le mal aux dents sera soigné au nom de saint Apolline. Et j'en passe.
Mais quand vous étiez petit, par exemple, vous m'avez raconté une anecdote que je voudrais que vous mettiez devant le micro.
Comme je vous disais, il m'est arrivé une aventure assez extraordinaire et qui a étayé en moi une foi troublante pour son auteur lui-même à l'égard de ses pratiques. J'étais un jour, j'avais 9 ans, je crois, chez une parente, mes parents, étant, mon père et ma mère étant en voyage et m'ayant laissé à sa garde. Je m'approche d'un poêle, c'était l'hiver, je me brûle, je pousse un cri, la brûlure semblait devoir être aussi profonde que douloureuse, et ma cousine, car c'était une cousine, me dit « ne pleure pas, je vais aller chercher une voisine qui te persignera ». On va chercher la voisine, malgré mes dénégations, mes protestations, ma crainte un peu vague d'être mise à la porte du catéchisme le lendemain, si on apprenait que j'avais frayé avec le diable. La vieille femme vient cependant, se livre à ses incantations, et je dois en témoigner en toute probité intellectuelle, la douleur a cessé, je n'ai jamais eu de cicatrice.
Votre diagnostic, après coup, professeur Pouliquen?
Brûlure premier degré sans cicatrice.
Retour de la raison.
Oui, j'espère. Mais ça met en place, je dirais, le charlatanisme, le charlatan.
Il y en avait beaucoup déjà au temps de Madame de Sévigné.
Oui, et Dionys, ce médecin de Louis XIII, disait « Attention, les charlatans sont tellement nombreux que finalement nous allons avoir des catastrophes. » Donc, on était inquiets.
Est-ce que la frontière était moins claire qu'aujourd'hui entre les médecins et les charlatans?
Absolument. Et les empiristes? On les appelait les empiristes. Les empiristes étaient ceux qui vivaient de recettes. Et ils se définissaient comme ça à cette époque. L'empirisme, c'est celle qui est pratiquée par des particuliers dont l'étude n'a pas été assez réglée pour parvenir au degré, au diplôme, et qui se fonde principalement sur les épreuves de quelques recettes médicales. Alors, les recettes médicales, quand on sait ce qu'étaient les recettes médicales des vrais médecins, qui ne valaient rien, et qu'on les compare aux recettes médicales des faux médecins, Il n'y a pas beaucoup de différence. Et en gros, il fallait être habile, il fallait avoir un bon discours et il fallait avoir une attitude compassionnelle. Et cette attitude compassionnelle des empiristes, elle était peut-être favorable aux malades, car quand on voyait des médecins, ceux que Molière a mis en scène, mais ceux qui n'étaient pas très loin de la réalité, qui parlaient latin au chevet d'un malade pour dire des choses qui finalement le malade ne comprenait pas, quand on voit, on imagine assez facilement un empirique aimable, charmant, tel que le frère du soleil que Saint-Simon vante, ou les capucins de la Madame de Sévigné, ou le frère Ange, ou Blény, tant d'autres, qui entouraient la cour et qui étaient souvent protégés par un grand de ce monde, ben on imagine que ces gens, ils avaient une certaine position. Ils ne faisaient peut-être pas plus mal, pas plus mal, il faut bien l'avouer, avec leur drogue, que les médecins qui n'hésitaient pas à utiliser les choses les plus extraordinaires, comme les yeux de scorpion, ou je sais pas, tout ce que vous pouvez, ou la vipère.
Les diamants, tout à l'heure.
Ou les diamants, entendu. Ou les pierres précieuses, comme tout à l'heure. Si bien que l'empirisme avait aussi, je dirais, des éléments favorables pour se développer.
On retrouve le psychosomatisme dont nous parlions tout
bien
à l'heure.
Bien sûr.
Écoutez, et là, c'est une permanence avec aujourd'hui.
Bah, évidemment. Non, mais je pense que... on ne peut pas nier que 80% des préoccupations de santé sont liées au rapport esprit-corps, c'est-à-dire aux tourments que le corps éprouve à la suite des tourments de l'esprit.
C'est pour ça que vous croyez qu'il y a autant de guérisseurs et probablement de charlatans qu'autant de Madame de Sévigné aujourd'hui ?
Non, eh bien je pense que justement, puisque nous sommes dans le temps présent, moi je considère qu'actuellement la disparition du dialogue médical au profit de technicités très... très avantageuses, hein, qui guérissent. L'absence de communication entre le malade néglige les maladies psychosomatiques.
Entre le malade et le médecin.
Voilà, entre le malade et le médecin. Néglige le caractère psychosomatique de beaucoup. Or, le psychosomatique, comment le décèle-t-on dans un interrogatoire très précis d'un malade, hein, c'est dans une observation médicale. Et là, je pense que le regard qui est plus celui de la littérature, hein, sur le malade, d'où je suis favorable, moi, aux sélections des littéraires en médecine, autant que des scientifiques, parce que le littéraire, il a un regard particulier sur le malade, peut-être plus que le scientifique, il l'a sur les techniques de soins. Je pense qu'il y a un petit désordre dans notre activité médicale actuelle qui néglige beaucoup la communication, beaucoup ce regard particulier sur l'esprit du malade et qui favorise toutes les techniques, les applications d'imagerie, etc., pour soigner le malade.
Je comprends bien, malgré l'apparence, il y aurait peut-être des leçons à tirer du temps de Madame de Sévigné, que vous avez considéré, oui, et qui...
J'aimerais bien, car je suis...
En dépit des progrès formidables de la capacité de guérir et de prolonger la vie, il y a là pour mieux être
alors, si on
des leçons à tirer.
Oui, si on se résume, un médecin, il faut qu'il ait une action, ça c'est essentiel. Mais il y a aussi une chose qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il faut qu'il ait la compassion. Le secret du métier médical, c'est que celui qui est en face de vous, un patient, il est vous-même. Il faut que vous sachiez qu'il est vous-même avec des maladies ou des symptômes qu'il traduit. Et vous prétendez avoir la connaissance et l'explication de ces symptômes. Et il n'y a que comme ça que vous avez une vraie liaison avec le malade. Et je crains qu'actuellement, elle disparaisse. D'où le monde très libre pour les charlatans, pour tous ceux qui parlent.
Eh bien, cette prescription ce message constituera Yves Pouliquen le dernier mot de notre conversation. Pas tout à fait, puisque je vais rappeler le titre de votre livre. Madame de Sévigné et la médecine du grand siècle, publié chez Odile Jacob il y a quelques semaines. Il faut aussi que nous rendions hommage, vous le souhaitiez, moi aussi, au magnifique travail de Roger Duchesne qui vient de disparaître, c'est-à-dire l'édition dans la Pléiade en 3 volumes de la correspondance de Madame de Sévigné à partir de 1972. Et il est aussi l'auteur de 2 biographies de la Divine Marquise, Madame de Sévigné, paru chez Fayard en 2002, et puis dans la jolie collection que nous connaissons, Découverte, c'est lui également qui a rédigé le volume sur Madame de Sévigné. Voilà, voilà.
Oui, je m'associe à cet hommage, pleinement.
Vous aviez d'ailleurs songé à lui dédier votre
livre. Oui, si j'avais osé. Si j'avais osé, parce que j'aurais voulu qu'il ait d'abord la lecture de mon livre, mais hélas, il nous a quittés avant qu'il ait pu le lire, mais ça suscitait sans doute pour moi, une manière de le remercier de tout ce qu'il nous a donné.
Voilà qui est fait publiquement à notre micro. Merci. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration d'Agnès Chauveau, avec Patrick Molinier, réalisateur, avec Georges Sautour, Mary Moneghetti, Virginie Gresset, et pour les archivinats, Florence D'Artois.
C'était Le corps et l'esprit, Madame de Sévigné et ses médecins, un numéro de Concordance des temps, diffusé le 27 janvier 2007 sur France Culture.